On vous encourage à répondre à la question via notre site canalm.vusezvoix.com ou encore sur les réseaux sociaux. Pensons ici à Canal M, la radio de Vusezvoix. Et avec nous, des personnes qui vivent l'inclusion scolaire au quotidien, l'inclusion à l'école. Est-ce que c'est toujours un succès? En tout cas, les gens qui sont là ont envie de nous dire... Souvent oui, plus qu'on pense en tout cas. Geneviève Labrec, directrice générale du regroupement pour la trisomie 21, est avec nous. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Content que vous soyez là. Aline Savard, qui est enseignante au primaire pour la Commission scolaire de Montréal depuis 17 ans maintenant. Alors, bonjour Aline.
Bonjour.
Et au téléphone avec nous depuis la vieille capitale, Donc, Mélanie Privé va s'ajouter à nous dans peu de temps. C'est la maman de Florence, qui a 14 ans. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Son histoire a été, entre autres, récompensée par l'ACIS, hein, qui a décerné à l'école pour l'intégration réussie avec Florence, a remis un prix. Hein? Donc, on l'aura dans quelques instants avec nous. Mélanie Privé, maman de Florence, 14 ans. Bonjour, Mélanie.
Bonjour.
Très content que vous soyez là.
Très heureuse aussi.
Alors, rappelons que vous avez inscrit votre fille Florence à l'école secondaire régulière à Québec.
Oui, tout à fait. Donc, Florence va à l'école secondaire dans une classe d'école, une classe internationale.
Mm-hmm.
Donc,
c'est exigeant, ça, quand même.
Oui, mais Florence ne fait pas le programme PEI. Elle
okay.
fait son, elle va à son rythme à elle, mais elle est avec des élèves du PEI. C'est ça qui est important.
Ben oui, voilà. Parce qu'elle n'est pas coupée des autres élèves. Là. Il y a vraiment une interaction continue entre tous ces élèves-là.
Exactement. Donc, il y a une partie du groupe avec lequel elle a fait toute son primaire intégré mm-hmm. en classe régulière. Et là, elle poursuit avec certains de ces élèves-là au PEI.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé d'inscrire Florence dans une école régulière? Parce que beaucoup des élèves l'avaient connu une étape précédente. Ou en fait, qu'est-ce qui a motivé votre choix?
En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est que Florence, oui, effectivement, puisse suivre le groupe comme les autres élèves. Bon, certains sont allés à l'école privée, mm-hmm. mais nous, c'est notre école secondaire de quartier.
Ah oui!
Donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que Florence puisse poursuivre son cheminement, son développement, mais qu'elle puisse aller vraiment à l'école du quartier.
Oui.
Et il n'y avait pas nécessairement de classe adaptée dans l'école à Florence, dans l'école de quartier. Il aurait fallu la sortir du quartier pour pouvoir aller dans une classe adaptée, et c'était vraiment pas notre souhait, la classe adaptée.
Mm-hmm. Bon, mais est-ce que vous aviez quand même des craintes? Parce que les parents qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants qui ont une trisomie 21 ou qui ont une déficience intellectuelle, qui sont quelque part sur le spectre de l'autisme. En tout cas, tous ces parents-là ont souvent peur. Est-ce que vous aviez des craintes?
Ben effectivement, mais je vous dirais que des craintes qui ressemblent beaucoup plus à tout parent qui envoie un enfant du primaire vers le secondaire.
Mm-hmm.
Donc, quelle école on va choisir? Comment ça va se passer? Seront-ils intimidés? J'ai un autre garçon de 20 ans avec lequel j'ai vécu à peu près les mêmes stress. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais mon stress.
Oui.
Florence, elle a été très bien acceptée dans l'école où elle est actuellement, dans son école secondaire, mais c'est sûr qu'elle suit déjà un bon groupe d'élèves qui ont fait leur primaire. Donc, ceux qui sont en secondaire 2 l'ont vu aussi, là,
tu sais. Oui.
Donc, c'est vraiment, ils ont, oui, on avait des craintes, mais ils ont été rapidement dissipés par l'accueil qu'elle a reçu.
Mmh.
Elle a reçu un accueil extraordinaire. Donc, c'est sûr que ça nous a fait beaucoup de bien. Mais on y va un jour à la fois aussi.
Oui. Est-ce que vous pourriez mettre en question votre choix?
Oui, si ma fille n'était plus heureuse, à partir du moment que Florence viendrait nous dire « Moi, je ne veux plus aller à cette école-là, je ne suis pas bien », bien, on regarderait qu'est-ce qui ne va pas, mais par la suite, on regarderait d'autres possibilités si c'était le cas. Mais elle est tellement heureuse, elle se sent incluse, intégrée. Pour elle, c'est vraiment, ça répond vraiment à elle aussi, à ses besoins.
Mais j'imagine que l'école a fait un certain travail aussi pour que ça soit aussi heureux. Parce que bon, quand on vous écoute, on entend toutes les questions habituelles des parents, toutes les craintes habituelles des parents, et aussi on entend la volonté d'une élève comme les autres. Là. Mais est-ce que l'école a fait ce qu'il fallait pour que l'inclusion soit possible?
Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un point très important parce qu'on ne peut pas faire de l'inclusion s'il n'y a pas des outils, des choses qui sont mises en place. Alors, Florence, elle a une éducatrice avec elle qui la suit dans tout son parcours.
Oui, ça, c'est important de le nommer. Ça prend une ressource quand même.
Ça prend une ressource.
Une éducatrice qui est avec elle souvent.
Oui, donc l'éducatrice, elle adapte le matériel. Le prof est un spécialiste en pédagogie. Alors, lui va dire, le professeur va dire, en français, là, on va travailler telle chose. Bien, Florence, elle pourrait travailler telle chose. Donc, l'éducatrice va adapter le matériel, puis Florence va pouvoir faire les exposés oraux comme les autres. Elle le fait. Donc, mais elle le fait à son niveau. Fait que s'ils font un exposé oral, Florence va faire un exposé oral de niveau, que je vais dire, primaire,
adapté,
deuxième année, adapté. Mais elle va le faire avec les autres jeunes qui l'ont même choisi pour être dans leur équipe. Là. Donc, c'est ça qu'il faut adapter. Il faut que les profs aient de l'ouverture également. Les professeurs, nous, on est chanceux, on a beaucoup d'ouverture.
Et du temps aussi, il faut avouer quand même.
Oui, quand même, mais c'est sûr que l'éducatrice fait toute la différence, on va se le dire.
Aline Savard est avec nous. Aline Savard, vous êtes enseignante à Montréal depuis peut-être même un peu avant le mot d'ordre inclusion à la CSDM. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que je dise ça, mais vous avez vécu avant où on croyait peu à ce concept-là, puis maintenant où on le promeut exactement. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça, Aline Savard?
Oui, effectivement. Oui? En fait, avant d'arriver à Montréal, j'étais dans une autre école où j'étais éducatrice spécialisée, où c'était vraiment juste des classes spéciales. Donc, il n'y avait pas tant que ça d'inclusion.
Oh, mais vous êtes une ancienne éducatrice spécialisée.
Oui.
OK, donc vous avez déjà travaillé spécifiquement avec des personnes qui présentaient des limitations fonctionnelles.
Oui.
OK. Dites-moi, à l'instar de beaucoup de vos collègues, parce qu'on en entend souvent des critiques de la part des enseignants, des enseignantes qui sont inquiètes par avoir les ressources, etc., pourquoi vous êtes une partisane de l'inclusion?
Mon Dieu, parce que les enfants, et je pense qu'ils méritent tous d'être ensemble et non d'être mis à part dans des classes spéciales. Donc, je pense que tout le monde doit apprendre à vivre ensemble dans le quotidien pour toute la vie. Donc, puis ça s'apprend dès le jeune âge, là, pas juste quand on a 20 puis 35 ans.
Oui, parce que c'est une des choses qu'on apprend à vivre ensemble
à
l'école.
Oui, c'est ça. Donc, déjà, dès le départ, je pense que c'est important.
Puis vous, comme prof, comme enseignante, comment vous arrivez à faire ça, l'inclusion, dans vos classes?
En fait, je fais la même chose avec tous mes élèves.
Ah oui?
Donc, au lieu de penser à faire des choses différentes pour certains élèves, ils font tous la même chose, sauf que c'est les attentes qui diffèrent. Comme Madame disait tout à l'heure, elle fait des exposés oraux, sa fille, à la mesure dont elle est capable de le faire, avec son potentiel à elle. Donc, c'est un peu ça. Donc,
c'est de respecter, au fond, la grande diversité des potentiels.
Exactement.
Oui. Évidemment, on parle quand même des enfants qui présentent des limitations fonctionnelles, des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Il y a plus large que ça à inclure dans la question, j'oserais dire, de l'inclusion.
Oui.
Mais on va en parler un peu plus tard. On va revenir après ce pont musical parce que je veux aussi faire entrer dans la table ronde notre directrice générale du regroupement pour la trisomie 21, Geneviève Labrec.
Question de la semaine, a-t-on les moyens d'avoir des classes inclusives? Racontez-nous vos bons coups et vos échecs.
Et des bons coups, des mauvais coups, on en entend, mais on est beaucoup du côté des bons coups en ce moment, je dois avouer. C'est pas grave, on vous lira en fin d'émission d'autres points de vue. Avec nous, notamment, Geneviève Labrec, qui est directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Est-ce que vous pensez, qu'on pourrait faire autrement que d'avoir une approche inclusive, Geneviève Labrec? À l'école, bien sûr.
Oui, bien en fait, je pense qu'à l'école, comme tantôt Mme Savard disait, c'est important de prendre chaque enfant comme ils sont,
ouais,
puis d'essayer de développer leur plein potentiel. Ce qui manque en ce moment, c'est des ressources. Et ça, je pense que tout le monde peut le dire. Si on avait plus de ressources, on pourrait inclure beaucoup plus facilement les enfants.
Mm-hmm.
Je pense aussi qu'au niveau de l'inclusion, il y a des problèmes dans les écoles physiques.
Oui, comme on l'accessibilité physique.
Exactement.
Mm-hmm.
Ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à l'école qui ont le même développement moteur.
Mm-hmm.
Quand on a des écoles à Montréal de 3 ou 4 étages à monter puis qu'on a de la difficulté à se déplacer, ben c'est une embûche à l'inclusion, là.
Oui, et c'est drôle parce que même Aline Savard, qui est avec nous, a été enseignante puis elle n'a pas pu accéder à sa classe à certains moments. C'est déjà arrivé, ça. Hein?
En fait, j'ai pu, mais mon employeur a été... a gentiment accepté d'engager une autre enseignante avec moi dans la classe.
OK.
Pour que je...
Pour vous aider pour à monter.
Pour éviter que j'aie à me déplacer.
OK. Bon, voilà. Mais donc, vous parliez d'accessibilité physique. C'est heureux d'entendre ça, Geneviève Labrec, alors que vous, vous travaillez d'habitude pour les personnes qui ont une trisomie 21, donc plus du côté de la différence intellectuelle.
Mais la trisomie 21 est aussi accompagnée d'un développement global plus tard aussi.
Okay.
Donc, ce sont des enfants qui, au niveau physique, ont des difficultés à se déplacer.
Mm-hmm.
Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Et ce n'est pas tous les enfants qui ont une déficience intellectuelle qui ont un côté moteur aussi développé que la moyenne.
Mm-hmm.
Et quand on parle d'inclusion, bien, on parle d'inclusion pour tout le monde,
ouais,
pas juste pour la déficience intellectuelle.
Ça arrive quand même assez souvent que des enfants présentent plusieurs déficiences. Puis à ce moment-là, quand ça arrive, on dirait que le système veut les envoyer dans une école spécialisée, hein? C'est ça un peu le réflexe?
Le réflexe, c'est souvent ça. C'est ce que, en fait, c'est ce que les familles nous témoignent. C'est,
ouais,
ce qu'on entend des histoires, c'est ce qu'on lit dans les journaux.
Mm.
Ce que j'aimais aussi tout à l'heure de Madame Privé, c'est qu'on parle, elle disait, tant que mon enfant est heureux dans le système, on va essayer de l'accompagner.
Ouais.
Mais pour savoir s'il peut fonctionner dans le système régulier, il faut l'essayer.
Ouais, voilà.
Donc, la maternelle devrait être accessible pour tous.
Mm-hmm.
Et là, on évalue si l'enfant, on peut avoir les ressources. C'est sûr que si on a un enfant avec de lourds handicaps puis que les ressources ne peuvent pas être présentes à l'école, c'est sûr que c'est plus facile d'aller dans des écoles où il y a les ressources qui existent. Mmh. Je parle des enfants lourdement handicapés,
ouais,
mais je pense qu'il faut essayer aussi. Il faut que le système mette en place de l'aide. Un enseignant tout seul ne peut pas adapter son matériel, ne peut pas accueillir tous les enfants différents dans sa classe sans aide.
Mmh.
Ça prend du soutien.
Mais je vous entends parler en filigrane, j'entends le primaire. On parle beaucoup du primaire.
C'est la base.
C'est la base, bien sûr, mais est-ce que c'est pas un lieu plus facile pour l'inclusion?
Je vous dirais que la base, c'est la garderie ou le,
ouais,
CPE. Donc, quand on réussit à faire à inclure notre enfant dans un CPE puis qu'il développe des liens, qu'il apprend le côté social, la marche naturelle par la suite, c'est l'école.
Mm-hmm.
C'est ça. Et ensuite, c'est l'école secondaire.
Ouais.
Et là, l'école secondaire, bien, c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile parce que souvent, les élèves vont se promener d'une classe à l'autre. Et là, c'est tout le matériel.
Mmh.
Et les écoles secondaires, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de défis à voir.
Oui, bien, il semble secondaire et même après, quoique,
oui,
au niveau collégial, supérieur maintenant.
Voit...
Puis il y a eu un arrêté, il faut le dire, la Commission des droits de la personne a publié un, mmh, avis très intéressant, puis pas mal...
Punché,
on dirait, pour le collégial, entre autres. Mais le secondaire, on n'est pas sûr si ça va bien. Aussi, il faut le rappeler, l'inclusion, c'est beaucoup... Les parents, on a avec nous Mélanie Privé au téléphone, qui est parent d'une adolescente.
Oui.
Vous, est-ce que vous aidez les parents à trisomie 21? Parce que c'est une partie importante de l'équation, là.
Oui, oui, les parents doivent être informés comment ça fonctionne, parce que le milieu du système scolaire, c'est pas facile à comprendre.
Mm-hmm.
Ça prend quasiment un mode d'emploi, là. Il y a les commissaires, il y a plein de,
ouais,
directeurs... Et là, nous, on offre des services, on fait des conférences, en fait,
mm-hmm,
pour apprendre aux parents. Comme la semaine dernière, on a eu une conférence, c'était l'entrée à la maternelle. Donc, on avait une vingtaine de parents qui étaient là, qui pouvaient commencer à comprendre comment ça fonctionne. C'est comment,
oui,
on inscrit notre enfant, comment on le présente. Et ensuite de ça aussi, il y a le plan d'intervention. Et ça,
oui,
c'est pas facile non plus à comprendre. Puis
non,
on peut se faire avoir, entre guillemets, en tant que parent,
puis
si on n'est pas
informé.
Parce
qu'on le signe, il faut être bien conscient,
oui,
de ce qu'il y a dans ce plan d'action-là. Des fois même, on voit des traces de préjugés.
Oh oui, on en voit.
Il faut vraiment surveiller. Pas que, je dis pas que les directeurs ou les responsables pédagogiques sont de mauvaise foi, mais il faut éduquer même à cette étape-là.
Oui, oui, puis il faut,
ouais,
faut que les parents soient conscients de leurs droits.
et le droit de leurs enfants. Mm-hmm. Et ça, dans le système scolaire, on n'est pas porté à leur expliquer. Donc, ça passe par les organismes communautaires. Mm-hmm. Et là, notre rôle, nous, on a une formation aussi sur le plan d'intervention et on a aussi de l'aide de l'EPHQ quand ça ne va pas bien. Il y a l'Office des personnes handicapées du Québec. Mm-hmm.
Mais c'est qui fait de l'accompagnement individuel.
Oui.
Et rappelons d'ailleurs que personne ne peut refuser la présence de l'EPHQ.
Jamais.
Ça, c'est quand même différent parce que vous, je suis désolé de vous le dire, Mme
Labrecque,
mais un directeur pourrait dire « Non, vous n'avez rien à voir dans le dossier, Mme Labrecque, mais l'EPHQ, c'est interdit de les refuser. »
Exactement. Mmh. Et c'est une ressource qui n'est pas nécessairement aussi bien connue des familles.
En effet.
Et donc, nous, dès que les familles arrivent chez nous, regroupant, on leur parle d'OPHQ, même dans le système médical, dans le système de santé. Dès qu'il y a un plan d'intervention, on leur demande d'avoir quelqu'un de l'OPHQ pour les aider là-dedans puis les accompagner. Mmh. Et quand tout ça ne fonctionne pas, ben, on a Mme Lorraine Doucet, qui est notre conseillère en inclusion sociale, qui est une sommité en inclusion et qui est là pour aider les familles aussi.
Bon, bien, merci de votre aide. Est-ce que vous avez profité d'une aide comme ça, Mélanie Privé? Est-ce que vous avez un organisme qui vous a appuyé dans les démarches d'inclusion de votre fille?
Oui, tout à fait. Puis c'est très important. Nous, c'était l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec.
Uh-huh.
Mais je connais bien aussi le regroupement de la Trisomie 21, même si on est à Québec. C'est certain qu'au départ, on est très préoccupés. Lorsque moi, j'ai appris que ma fille, elle allait avoir la Trisomie 21 lorsque j'étais enceinte. Puis c'était vraiment notre souhait dès le départ en se disant, mais elle va-tu avoir une place dans notre quartier, dans notre communauté?
Il faut y penser au départ, hein? C'est ça, là.
Oui, exactement. Mm. Puis moi, mon fils était déjà dans cette école primaire-là. Mm-hmm. Et il avait une jeune avec une déficience intellectuelle qui était intégrée. Mm. Et il a fait toute son primaire avec elle. Puis c'est là que je me suis dit, bien, c'est possible. Mon fils le vit. Il n'a pas de déficience intellectuelle, mais il vit avec une jeune qui a une déficience intellectuelle. Et l'association nous a beaucoup appris. Dans le fond, on a beaucoup d'enseignements à apprendre par rapport au plan d'intervention et tout ça. Donc, c'est sûr que, oui, c'est très important d'être accompagné, mais on a eu aussi une belle équipe école qui ont eu de l'ouverture.
Mais ça, on l'entend dans votre histoire, là, l'équipe école est déterminante. Il y avait déjà une sensibilité, vous le dites, il y avait une élève qui présentait une déficience intellectuelle qui était déjà passée. Les élèves aussi, les confrères, les confrères de travail, j'ai dit confrères de travail, de votre fille, étaient déjà habitués. Bon, j'imagine que certains préjugés étaient déjà tombés. Mais est-ce que vous pensez que cette école-là existe souvent au Québec?
Je crois pas que c'est partout où on peut vivre ça, mais on a vraiment eu beaucoup de chance d'avoir des gens avec beaucoup d'ouverture, des jeunes qui ont un parcours, qui sont des jeunes avec beaucoup d'altruisme, d'ouverture. Et c'est sûr que ça l'a facilité. Je vous dis pas que, par contre, on n'a pas eu des petits moments. Moi, Florence, quand elle est rentrée à l'école, son langage était inintelligible. Elle disait des sons, mais elle ne parlait pas. Imaginez l'équipe qui nous regarde en disant, mais elle parle pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, j'ai une orthophoniste qui a dit, eh ben moi, j'ai lu un article aux États-Unis, en fait, une recherche, elle a fouillé, puis elle a utilisé la littératie pour aider Florence. Et Florence, maintenant, lit, parle, écrit, compte. Mais lorsqu'elle est rentrée à la maternelle, elle disait papa, papa, maman, maman. Là, tu sais, c'était pas plus que ça.
Wow, mais c'est tout un cheminement qu'elle a fait, là. Puis,
oui,
puis grâce à vous, effectivement. Donc, on aimerait conclure à cette émission. Il y a un petit pont musical. Je le dis parce que, cher Maurice, vous savez, il était à mise en onde dans l'aquarium. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Il m'offre toujours des offrandes musicales surprenantes. Alors, écoutez, on va se laisser pour un petit instant musical. Puis après, j'aimerais ça qu'on se pose la question, mais comment on peut concilier ça avec les profs qui en ont déjà tellement sur le dos? Comment on réussit à faire l'inclusion?
Question de la semaine, a-t-on les moyens d'avoir des classes inclusives? Racontez-nous vos bons coups et vos échecs.
Répondez à la question, n'oubliez pas les canaux habituels, vous les connaissez, le site web de l'émission où on va voir d'ailleurs les liens vers les ressources dont on a parlé aujourd'hui. Bien sûr, les réseaux sociaux. Répondez à la question, l'inclusion scolaire, ça inquiète les professeurs, on le sait. Est-ce que ce n'est pas davantage un problème de moyens? Je ne sais pas qui a envie de répondre. Peut-être notre prof qui est à table, Aline Savard, qui est enseignante à la CSDM depuis maintenant 17 ans. Est-ce que c'est un problème de moyens, l'inclusion?
Peut-être un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup un problème de formation aussi.
Ah oui?
Oui.
Donc, de sensibilisation?
Déjà, oui, bien, de formation. Donc, déjà, dans le bac, on ne nous parle pas tant des élèves à besoins particuliers.
Ah oui?
Donc, quand on arrive sur le terrain, on n'est pas outillé pour faire des plans d'intervention, pour accompagner les élèves qui arrivent dans nos classes. Mm-hmm. Donc, déjà, à la base, si on n'a pas... Si on n'est pas outillé pour faire face à cette situation-là, donc on manque de moyens nous-mêmes.
Ouais.
Puis,
ça, c'est pas juste les moyens financiers, donc c'est peut-être les aussi les perceptions, les attentes, Geneviève Labrec.
En fait, quand on inscrit notre enfant à l'école, mm-hmm. c'est écrit handicap, puis on écrit par exemple trisomie 21, déficience mm-hmm. intellectuelle. L'enseignant qui voit ça voit l'handicap. Mm-hmm. voit pas l'enfant derrière, voit ouais. juste tous les défis.
Ouais.
Et c'est ce qu'on suggère, nous, au recrutement pour la trisomie 21, quand vous faites l'inscription, faites une espèce de CV de votre enfant. Décrivez-le. Décrivez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses défis. Décrivez-le pour qu'on voit au-delà du handicap. Mm. Parce que souvent, il y a une grande méconnaissance, il va y avoir des préjugés. Mm. Puis ça, c'est vrai que c'est un grand, grand manque au niveau de la formation.
Parce que c'est vrai, il faut parler des profs aussi, là. Les profs, quand ils voient leur classe pour la première fois, ils voient un profil de très sommaire, des noms, avec à côté, effectivement, des défis particuliers.
Des
puis là, entre eux, des cotes, de 1 à quelque chose. Puis là, ils se disent entre eux, « Ah, oh, mon Dieu, j'ai un enfant difficile avec trouble de comportement, j'ai un TSA. » Puis là, ils se disent ça entre eux, puis là, ils sont inquiets, puis ils disent « Comment je vais faire encore? »
C'est pas « J'ai Stéphane avec un TSA, j'ai un TSA, j'ai un trisomie 21.
Ben » oui. Mais c'est comme ça, le premier exact. Contact, c'est la feuille de route qu'ils reçoivent, un nom avec quelque chose de très rapide à côté. Là. Est-ce qu'il y a des moyens d'aborder la chose autrement? Aline Savard, est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes écoles qui rendent ça plus doux, ce passage-là, ou cette sensibilisation à l'inclusion-là?
Mais je pense que c'est les rencontres avec les parents qui adoucissent tout ça. Donc,
mais ça arrive tard. Ça arrive tard, les rencontres avec les parents. Là. On a déjà commencé, ça fait 20 jours. Puis,
Souvent, moi, on le sait en juin.
Ah
souvent.
Oui, OK.
Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer les parents en juin.
Mm-hmm.
Donc, déjà, d'avoir un premier contact avec les parents pour savoir l'histoire de l'enfant.
Donc,
tout ça,
c'est une force.
Ou en début d'année, oui.
En début d'année ou avant l'année pour se préparer.
Parce que la coéducation avec le parent est vraiment importante. Là,
ben
sinon,
oui, voilà.
ça se peut pas.
Non, c'est ça. Il faut rester très en contact. En fait, ça demande aux profs, par exemple, d'être très près des parents, de discuter beaucoup avec eux. Il faut que les parents le fassent bien aussi. Est-ce que vous le faites bien, Mélanie et Privé? Est-ce que c'est ça la raison de votre succès?
Bien, je vous dirais qu'effectivement, premièrement, les profs doivent ébranler leurs propres croyances. Vous avez raison. Mm-hmm. Nous, Florence et moi, on donne des conférences à l'université pour aux jeunes futurs profs pour voir autrement l'adaptation, comment on peut y arriver. Puis effectivement, moi, en juin,
c'est un bon moment pour les rencontrer. Oui.
Même pour l'école secondaire, on a commencé un an avant.
Donc,
à aller voir
écoutez,
la direction.
Je dois vous quitter. Vous êtes d'excellente ambassadrice. Geneviève Labrec du regroupement pour la trisomie 21. Merci beaucoup.
Merci.
Aline Savard, enseignante au primaire à la CSDM depuis 17 ans, qui est très inclusive. Merci beaucoup. Et Mélanie Privé, maman de Florence, 14 ans, que vous connaissez. Merci à vous toutes.
Merci.
Merci.